Vous écoutez France Culture.
Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Diffusés tous les jours de 10h à 11h du lundi au vendredi. Les nouveaux chemins de la connaissance sont réalisés cette semaine par Christine Robert, avec Alexandre James et Fabien Gosset à la technique, et préparés par Geneviève Méric, Jeanne-Marie Roux, Mathilde Unger, Avril Ventura, Adèle Van Rett. Suite et fin, ce vendredi de la première des deux semaines que les nouveaux chemins de la connaissance consacrent cette année au bac philo. Cinq professeurs de terminale qui s'imposent de subir les épreuves, la même épreuve que leurs élèves, histoire de montrer qu'elle n'est pas insurmontable, mais qu'elle est difficile quand même. La politique doit-elle faire le bonheur des citoyens? Peut-on dire que toutes les cultures se valent? Y a-t-il quelque chose que le langage ne puisse dire? Peut-on vouloir le bien sans le faire? Peut-on dire d'un désir qu'il est anormal? Ce sont les questions de la semaine, des sujets typiques du genre de ceux qu'il faudra bien affronter le jour de l'épreuve au terme d'une seule année scolaire. Car en limitant l'enseignement de la philosophie à la classe de terminale, le système éducatif marche littéralement sur la tête et fait trop souvent un calvaire du bonheur de penser. Au lieu de prendre le temps, sur plusieurs années, d'éveiller les élèves, de les habituer au paradoxe, de leur montrer que la philosophie ne fait que traduire les questions qu'ils se posent eux-mêmes, l'école, mal fichue, contraint les futurs bacheliers à ingurgiter en quelques mois une foule de notions fondamentales et toutes les difficultés d'un lexique inouï. Il n'en faut pas davantage pour qu'un élève, fût-il de bonne volonté, voit dans le vocabulaire de la philosophie un jargon indigeste, tienne les questions qu'elle pose pour autant de faux problèmes et accrédite l'image dérisoire du philosophe perdu dans sa tour d'ivoire, réduise enfin la philosophie à un luxe auquel on renonce au moment de gagner sa vie et se représente l'épreuve du baccalauréat comme une montagne à gravir. En d'autres termes, tant que les lycéens n'auront pas la chance d'aborder la philosophie dès la seconde, ou même dès le collège, tant que leurs professeurs auront à cet égard l'obligation d'être exceptionnels, des émissions de cette nature ne seront peut-être pas tout à fait inutiles. Bonjour Marc Rosmini.
Bonjour.
Bonjour. On ne va pas parler de ça, hein. On va parler du sujet du jour, à savoir, hein, peut-on dire d'un désir qu'il est anormal? C'est la question du jour. Merci d'abord de nous accueillir au lycée Marseille Vert, un lycée magnifique, je dois dire. C'est un bonheur d'être ici en votre compagnie et en compagnie d'Adèle Van Rett. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël et bonjour à tous, à tous les élèves. Alors avant de, comme tous les jours de la semaine, hein, ce qu'on a fait toute cette semaine, avant d'entendre l'analyse du sujet par le professeur et le corrigé, la présentation du plan, on va entendre la réaction de trois des élèves des professeurs, donc Alice Agier, Étienne Ferrier et Quentin Vakoviak. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Donc imaginez que vous êtes le jour du bac, là on est mi-juin, vous arrivez, vous ouvrez le sujet et vous tombez sur ce sujet-là. Peut-on dire d'un désir qu'il est anormal? Comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que pour vous c'est un sujet difficile? Est-ce que des idées vous viennent à l'esprit spontanément, Alice Agier?
Ben, moi je réfléchirais d'abord à ce que c'est qu'un désir, c'est-à-dire si c'est quelque chose qui doit venir vraiment de nous ou parce qu'il y a par exemple des désirs qui pourraient venir de la société ou avec la publicité, la mode, les trucs comme ça. Et puis ensuite, à ce que c'est vraiment anormal, parce que finalement, genre si c'est anormal parce qu'on décide que ça va pas bien dans nos idées ou voilà.
Ouais, anormal par rapport à quoi, ouais.
Voilà, parce que faut bien décider d'une norme pour que quelque chose soit anormal.
Donc vous essaieriez de définir le désir, quelle est l'origine du désir, puis de réfléchir au terme anormal. Étienne Ferrier, qu'est-ce que vous feriez?
Je pense que j'essaierais d'abord de savoir qui pourrait juger un désir anormal et qui en a le droit, qui en a peut-être le devoir. Si on peut juger sur ses propres désirs. À ce moment-là, peut-être il faudrait étudier la conscience de nos désirs pour pouvoir ensuite les juger anormaux ou les juger anormaux chez les autres par rapport à soi.
Donc c'est la question du jugement qui vous intéresse en premier. Voilà. Peut-on dire d'un désir qu'il est anormal? Voilà. Quentin Vakoviak?
Disons que comme tout sujet, quand on le lit, on se pose les questions des mots-clés très classiquement. Disons que le jour du bac, il vaut mieux éviter les fantaisies. Disons que, premièrement, le désir, on essaie de se rappeler tout de suite qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Les désirs, comme l'a dit Alice, qui viennent de nous, qui peuvent nous être imposés par l'extérieur. La normalité, alors comment définir une norme des désirs? Et peut-être rajouter au sujet, afin d'y répondre correctement, dans quelles conditions peut-on dire qu'un désir est anormal? À ce moment-là, on essaiera de déterminer, durant la réponse, ces fameuses conditions.
Donc, s'interroger sur les conditions auxquelles on peut se demander, auxquelles on peut dire qu'un désir est anormal, s'interroger sur le jugement que l'on formule lorsqu'on dit d'un désir qu'il est anormal, et s'interroger sur l'origine du désir, ça, ce sont les trois approches des lycéens. Marc Rosmini, est-ce que ces trois approches sont toutes les trois recevables et légitimes?
Absolument. Hein, je constate avec plaisir que les élèves ont déjà acquis quelques méthodes de réflexion philosophique, puisqu'il convient de rappeler quand même à tous les élèves qui révisent le bac que finalement, au baccalauréat, les élèves sont évalués avant tout sur la maîtrise d'une certaine méthode de réflexion que nous sommes censés leur transmettre, et puis sur la maîtrise aussi d'une certaine connaissance philosophique, certaines références. Et là, bien sûr, les références sont très diverses selon le cours qu'ils auront reçu dans l'année. Donc un début de ce que nous allons faire aujourd'hui, ça va être justement de montrer qu'une référence peut être utilisée dans un contexte différent de celui dans lequel elle a été enseignée, et que, par exemple, une référence qui a été vue dans un cours sur la vérité peut très bien être utilisée dans un cours sur la question de savoir si un désir est anormal. Voilà, donc ça sera ça qu'on va essayer de faire ensemble.
Ce qui est particulièrement intéressant dans les réactions de vos trois élèves, Marc Rosmini en l'occurrence, c'est que aucun des trois n'a réagi en se demandant ce qu'il savait du désir, au sens programmatique du terme, c'est-à-dire ce qu'il avait appris du désir dans le cadre d'un programme de philosophie ou d'une année d'études. C'est-à-dire que le premier réflexe, et il faut dire ici, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est le bon, le premier réflexe n'est pas de se demander comment mobiliser nos connaissances, mais d'abord peut-être d'essayer, avec toute la candeur qu'impose l'exercice philosophique à son départ, de construire un problème ou d'être attentif aux réactions qu'il nous inspire. Les références viennent en un second temps.
Absolument. Je crois que le risque pour l'élève, ça serait de trop vite se précipiter vers la récitation d'un cours qu'il aurait appris, et en fait de manquer ce qui fait problème spécifiquement dans la question qui lui est posée. Donc si j'ai déjà un conseil à donner à tous les élèves qui peuvent nous écouter, c'est vraiment d'analyser la spécificité de la question, et donc non pas de réciter un cours sur le désir. Moi, c'est un sujet que j'ai déjà donné en cours, ce sujet, donc je connais un peu les écueils que les élèves peuvent rencontrer. Donc effectivement, c'est d'abord vraiment d'analyser le problème en lui-même, les termes du problème, la manière dont il est posé, on va y revenir. Et ensuite seulement, dans un second temps, d'utiliser les références philosophiques, non pas comme des décorations, non pas comme l'étalage d'une culture juste pour impressionner le correcteur, mais vraiment comme des outils pour nous aider à penser le problème et éventuellement à le résoudre.
Oui, les correcteurs ne sont pas impressionnables, il faut le dire aux élèves, ils reconnaissent la poudre aux yeux, la poudre qu'on veut leur jeter aux yeux. Derrière le souci, qui va avec la crainte aussi, hein, avec le stress de l'épreuve en lui-même, derrière le souci de mobiliser des connaissances d'emblée, il y a le risque donc de plaquer un sujet sur un sujet qu'on aurait vaguement traité au cours de l'année, et donc de diluer la spécificité du sujet dans un traitement plus général et au fond de ne pas répondre à la question. Posée.
Absolument, c'est pour ça que, étant donné qu'on voit souvent hein, ce genre de hors-sujet, d'élèves qui est un peu affolé par l'épreuve, vous avez rappelé aussi les conditions difficiles pour l'élève hein, qui a fait qu'un an de philosophie, l'élève un peu affolé a tendance à réciter quelque chose, il manque le problème, et c'est pour ça que je vais conseiller directement quelques petits exercices, il me semble, qui permettent à l'élève d'éviter à la fois l'affolement devant le sujet, parce que voilà, c'est comme vous l'avez rappelé aussi, c'est très difficile, d'éviter l'affolement et de penser avec méthode, de penser par étapes, et justement, peut-être que l'exercice qui consiste à utiliser des références, il viendra peut-être en dernier aussi, justement.
Quelles sont les suggestions, les exercices que vous proposeriez, professeur Rosmini?
Alors, les exercices que je propose, il y en a beaucoup, je m'en tiendrai aujourd'hui à trois ou quatre. Le premier, c'est vraiment d'analyser les différentes façons dont on peut prendre les termes du sujet. Ça me paraît très important. Je sais qu'on va y revenir tout à l'heure, mais j'avais déjà posé ce sujet. Le terme anormal a été peu conceptualisé, les élèves se précipitant sur la première manière dont ils pouvaient le comprendre. Donc déjà, analyser la structure même de la question, je vais y venir tout à l'heure, et les termes du sujet en essayant de les prendre dans leur sens le plus large possible, ce qui va permettre à l'élève aussi de voir que le problème peut se poser de différentes manières. Donc ça, c'est le premier exercice. Le deuxième, alors là, j'insiste très lourdement, les élèves le savent, c'est que l'élève doit relier la question qui lui est posée à un programme. Parce qu'en philosophie, il y a un programme, et c'est un programme de notions. Bon, en l'occurrence, ici, nous avons des élèves de terminale scientifique. Donc, il y a des notions au programme. Et j'insiste là aussi, vraiment avec beaucoup de lourdeur, il faut apprendre par cœur ces notions du programme. Voilà. S'il n'y a qu'une chose à apprendre par cœur en philosophie, dès le début de l'année, mais il n'est pas trop tard pendant ces révisions du bac, c'est d'apprendre les notions du programme parce que c'est ce qui est commun à tous les élèves de France qui passent le bac.
Juste une petite parenthèse, parce que ce que vous dites est très important. On dit souvent que la philosophie ne transmet pas un savoir, mais une méthode, un désir, une façon de réfléchir sur le monde et qu'au fond, l'art de réfléchir l'emporte sur les références qu'on pourrait mobiliser. Mais il ne faut pas non plus se servir de ce discours pertinent sur la philosophie pour négliger le fait qu'en terminale, il y a des choses à apprendre. Absolument. Et qu'à cet égard, c'est également une épreuve difficile et c'est aussi une épreuve de mémoire.
Absolument, c'est aussi une épreuve de mémoire. Il y a des choses à apprendre, il y a un savoir à maîtriser. Encore une fois, l'élève doit faire preuve d'une certaine souplesse intellectuelle puisqu'à la fois, il doit apprendre des contenus malgré tout, des références, des textes, etc. Mais il doit être capable donc de les utiliser dans un contexte différent de celui dans lequel il les a étudiés. Et ça, parfois, ça pose problème. Et donc, c'est quelque chose auquel, je crois, l'élève doit s'entraîner. Et si je dois donner un conseil aussi aux élèves qui révisent le bac, là, c'est de réviser leur cours, non pas en le relisant, etc., mais en prenant des sujets dans les annales du bac, en prenant des sujets, en se disant, tiens, sur tel sujet, comment est-ce que je pourrais m'en sortir et qu'est-ce que je pourrais utiliser de mon cours, même si, a priori, comme vous le disiez, ce sujet, je ne l'ai jamais traité, parce que le nombre de sujets possibles en philosophie est très large.
Et la condition de la souplesse, c'est donc le savoir. On est au cœur ici d'un paradoxe. On va aller dans le sujet lui-même, mais restons un instant sur la méthode. Ce que vous dites est important. On est ici au cœur d'un paradoxe. D'abord, l'apprentissage d'un savoir détermine la souplesse dont vous parlez. Et surtout, il est plus facile de penser par soi-même, comme on dit, quand on sait ce que les autres pensent. L'illusion selon laquelle on pense mieux par soi-même quand on ne connaît rien et que par conséquent l'idée qu'on peut avoir ne viendrait que de soi est une illusion. En général, quand on croit penser par soi-même parce qu'on n'y connaît rien, on pense comme tout le monde.
Absolument, donc c'est une illusion dont j'espère les cours de philosophie aident les élèves à se déprendre tout au long de l'année. Et voilà. Donc, alors pour terminer sur les exercices peut-être que je conseille, l'exercice suivant, ça serait de chercher des exemples problématiques, parce que l'exemple n'a pas pour fonction en philosophie d'illustrer simplement ou de décorer, il a pour fonction vraiment de problématiser. Donc les exemples intéressants en philosophie sont des exemples sur lesquels l'hésitation est possible. Les exemples trop évidents sont peut-être à éviter et l'élève doit chercher des exemples. Alors les exemples, aujourd'hui, j'en prendrai des exemples très simples et j'en prendrai aussi dans la culture cinématographique des élèves. Et je parlerai de deux films que les élèves ont assez souvent vus. Donc j'ai proposé une filmographie un peu plus large qui est consultable sur le site. Mais là, je m'en tiendrai à deux films dont mon expérience des classes me montre qu'ils les ont souvent vus. Et pareil pour les références. Donc le dernier exercice, ça serait justement utiliser le cours. Alors là aussi, le cours, chaque élève de France aura reçu un cours différent selon le professeur. Mais malgré tout, j'ai essayé de reprendre quelques références qui me semblent assez communes, qu'on retrouve souvent d'ailleurs dans les listes d'oral de rattrapage du baccalauréat, qui prouvent que ce sont des choses quand même qui sont assez connues. Donc on va peut-être pouvoir commencer effectivement.
Il faut construire l'introduction, aller vers la problématique, trouver la question, faire le plan. On a du travail, on a du pain sur la planche, élève Rosmini, à
donc,
vous de jouer.
Professeur Antoven, je m'y mets volontiers. Donc, tout d'abord, la question elle-même. Peut-on dire d'un désir qu'il est anormal ? Alors, bien évidemment, l'élève doit directement se rendre compte qu'il faut rajouter quelque chose à cette formulation. C'est peut-on légitimement dire d'un désir qu'il est anormal ? Si c'est la philosophie ne porte pas sur des questions de fait. S'il s'agit de se demander s'il est possible de dire qu'un désir est anormal, bien évidemment, c'est possible et beaucoup le font. D'ailleurs, beaucoup le font. On trouvera sans crainte et sans avoir beaucoup à chercher des exemples multiples de gens qui considèrent que tel ou tel désir est anormal. Donc le sujet ne porte pas sur la possibilité factuelle, bien évidemment, mais sur la légitimité. Peut-on légitimement dire, en droit, d'un désir qu'il est anormal ? Ensuite, sur la notion de désir, bon, je ne serai pas trop long puisque c'est une notion justement du programme, qui est au programme dans la plupart des sections. Donc c'est une notion qu'on incite souvent l'élève à distinguer de la notion de besoin, par exemple. Distinguer le désir du besoin, le besoin nous amenant davantage dans la nécessité, peut-être dans quelque chose qui relèverait de la nature, justement. Alors tout à l'heure, les élèves qui sont exprimés, et j'en suis ravi, ont déjà vu qu'il y avait un petit problème dans ce sujet. Si le désir reste à l'état de désir, qui peut en juger ? Peut-on juger d'un désir, Étienne a parlé de la conscience, peut-on juger d'un désir qui resterait à l'état de simple désir ? Donc l'élève va devoir aussi distinguer dans ce sujet de quoi il faudrait juger de la normalité. S'agit-il du désir lui-même ? Mais alors qui peut en juger ? S'agit-il de l'expression du désir ? Nous y reviendrons. Ou s'agit-il bien sûr de la satisfaction du désir, mais qui là est un acte et qui donc peut-être nous amène un petit peu ailleurs par rapport à la spécificité, encore une fois, du sujet.
Et ferait éventuellement d'ailleurs courir le risque d'un hors-sujet. Juste un tout petit point sur ce pouvoir, hein, ce peut-on, qui est donc une question de droit ici, pas une question de possibilité. C'est intéressant parce que cette semaine, parmi les sujets qu'on a traités, il y avait « Y a-t-il quelque chose que le langage ne puisse dire ?» Or, l'enseignante Patricia Lorca, enseignante à Lyon, expliquait très exactement sur le sujet en question « Y a-t-il quelque chose que le langage ne puisse dire ?» disait exactement le contraire de ce que vous dites, à savoir que ça n'est pas une question de droit. C'est au contraire une question de possibilité. C'est-à-dire, le langage peut-il tout dire ? Est-il en capacité de tout dire ? Ici, on est véritablement sur l'autre versant du pouvoir, c'est-à-dire non plus la capacité, mais l'autorisation qui nous serait faite de dire ou de ne pas dire quelque chose. Comme quoi, le même terme peut être véritablement, au terme d'une analyse, analysé, enfin décrypté de façon tout à fait différente, voire antithétique.
Absolument, et je serais d'accord avec ma collègue d'ailleurs sur la spécificité du sujet qu'elle traitait, justement sur la question de la possibilité. Or ici, bien évidemment, l'élève doit partir du point de vue de la légitimité, puisqu'il s'agit de juger hein, selon une norme. Alors, le terme anormal, et Alice l'a très bien dit rapidement, effectivement, l'élève doit s'interroger sur les normes selon lesquelles on pourrait juger. Lorsque j'avais donné ce sujet à des élèves, il y a quelques années, eh bien, trop rapidement, les élèves étaient partis sur l'idée qu'anormal était synonyme d'immoral ou même d'illégal. Vous avez parlé de désir illégal, ce qui ici pose déjà problème. Est-ce qu'il peut y avoir un désir illégal ? Bon, nous y reviendrons tout à l'heure dans le développement. Donc l'élève, avant tout, doit s'interroger sur la diversité des normes selon lesquelles, éventuellement, on pourrait juger d'un désir. Parce que le terme anormal, en français, est ambigu. On sait que la philosophie, c'est essayer de penser avec rigueur, avec des mots ambigus, hein, c'est pas une petite tâche. Donc le terme anormal en français peut se référer soit à une moyenne, hein, on parlera de quelque chose d'anormal par rapport à une moyenne, soit par rapport à une norme. Et les normes peuvent être effectivement morales, pourquoi pas. Elles peuvent être aussi d'origine religieuse, ce qui n'empêche pas bien sûr qu'elles soient morales, nous y reviendrons. Mais il peut y avoir aussi d'autres types de normes selon lesquelles un désir pourrait être jugé anormal. Par exemple des normes rationnelles. Qu'en est-il d'un désir fou ? Donc on pourra réfléchir sur ce sujet, sur la folie. Y a-t-il des désirs déraisonnables en soi ? Les normes peuvent être esthétiques, hein, nous y reviendrons aussi. Y a-t-il des désirs qui relèveraient d'un goût qui serait anormal ? Hein, nous y reviendrons. Les normes peuvent être aussi métaphysiques, ontologiques. Y a-t-il des désirs qui sortiraient de ce qu'un homme peut pouvoir désirer ? Donc vous voyez que déjà l'élève doit au brouillon bien sûr, problématiser toutes ces différents types de normes selon lesquelles on pourrait juger un désir.
Mais est-ce que cette polysémie du terme de norme ne pose pas trop de problèmes ? Comment un élève scrupuleux qui ferait le travail que vous lui conseillez de faire, Marc Rosmini, c'est-à-dire qui véritablement mettrait en évidence les différents sens de normes, essaierait de faire jouer ses sens avec les différents sens du désir ou avec le sens qu'on donne à la possibilité donc de dire d'un désir qu'il est anormal, comment ne pas être débordé par les infinies combinaisons qui viendraient d'une analyse des termes ? Comment résumer tout cela ? Comment faire tenir tout cela en une question ou deux questions qui détermineront ensuite tout le travail de la dissertation ?
C'est ce que nous allons essayer de faire ensemble, bien évidemment, mais ça n'empêche pas tout à fait que l'élève puisse faire des choix en réalité. Hein. C'est-à-dire que l'élève est responsable, en philosophie nous n'avons pas de corrigé-type et nous y tenons, l'élève est responsable de la manière dont il va mener sa réflexion et nous ne pouvons pas le juger là-dessus. Par contre, il y a sans doute des enjeux essentiels d'un sujet dont on peut penser que l'élève doit parler. Et sans être totalement exhaustif, on peut penser malgré tout que l'élève auquel on mettra la meilleure note, moi il m'est arrivé de mettre 20 sur 20 au baccalauréat.
20 sur 20 ?
Oui, ça m'est arrivé deux fois. C'est des élèves justement pour lesquels je jugeais qu'ils avaient évoqué tous les enjeux possibles du sujet. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient dit bien sûr tout ce qui était possible de dire sur le sujet, c'est évident. Mais je jugeais qu'un élève de terminale, au terme d'une année où il a eu que 4 heures de philosophie par semaine, eh bien, ne pouvait pas faire vraiment mieux, en tout cas, qu'on ne pouvait pas en attendre plus. Donc l'élève doit faire un choix, effectivement, et donc c'est ce qu'on va voir, et moi j'en ai fait un pour traiter le sujet. Bien
précisément,
sûr.
Donc vous-même avez fait un choix qui n'est donc pas exclusif d'autres possibilités d'appréhender le sujet en fonction des différents sens que vous avez mis en évidence. Quel est votre choix ?
Alors, avant d'en venir vraiment au développement du plan, je voudrais juste terminer sur deux exercices qui me semblent très importants, et là aussi j'ai insisté tout à l'heure, les notions du programme. Hein. Ce sujet, justement, par son ouverture, par la polysémie du terme anormal, permet de problématiser un grand nombre de notions du programme, de terminal S par exemple, donc qu'il faut connaître par cœur, j'insiste là-dessus. Donc la première notion serait de confronter justement le désir à la morale. C'est-à-dire, est-il légitime de porter un jugement moral sur un désir qui ne reste que désir, hein, comme on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qui, non seulement ne se réalise pas, mais qui, éventuellement, ne s'exprime même pas. Donc, ici, bien sûr, on se demande s'il faut juger des actes ou des intentions. Et la notion d'intention peut nous amener du côté, si l'élève connaît cette notion, du péché d'intention, puisque certaines religions évoquent cette idée selon laquelle les actes des hommes doivent être jugés, mais leurs désirs aussi doivent être jugés. On verra à quelles conditions, justement, un désir peut être jugé par une puissance extérieure, une puissance transcendante, et quelles questions ça pose sur la définition même de la conscience, finalement. Si mon désir peut être jugé alors qu'il n'est que désir par une autre instance que moi-même, ça veut dire que la conscience n'est plus le lieu de l'intimité, du pur rapport du sujet à lui-même.
Mais le lieu de la mauvaise conscience.
Exactement. Alors la mauvaise conscience, est-ce qu'elle vient de l'intérieur ou de l'extérieur? Nous y reviendrons bien sûr. Cette distinction entre le désir qui ne reste que désir et l'acte, comme réalisation du désir, permet aussi à l'élève de réfléchir sur la notion d'art, qui est une notion au programme, j'insiste. Alors pourquoi sur la notion d'art? Parce que l'œuvre d'art peut être une catégorie intermédiaire, finalement. Le désir qui s'exprime dans l'art et qui serait un désir qui habituellement est condamné par la société, est-il légitime de le laisser s'exprimer tant qu'il ne reste que désir? Ou bien faut-il, là aussi, lui imposer des limites? Ce qui pose la question, nous y reviendrons avec des exemples tout à l'heure, d'un côté de la censure et de l'autre de la liberté d'expression. Si on continue à explorer comme ça le programme des notions de TS par rapport à cette question, il est évident qu'il serait quand même intéressant que l'élève évoque la notion de culture. Autrement dit, y a-t-il des désirs anormaux dans l'absolu, de façon universelle, ou bien est-ce que les normes, selon lesquelles on pourrait juger, aussi bien les actes d'ailleurs que les désirs, sont purement relatives aux différentes cultures humaines.
Donc vous employez ici le terme de culture au sens d'une culture particulière, c'est-à-dire finalement l'écosystème d'une collectivité humaine définie.
Absolument.
Et non pas de la culture au sens civilisationnel du terme qui transcenderait les particularismes.
Voilà, je le prends ici plutôt au sens du relativisme culturel, bon, qui est une notion qui est assez souvent abordée malgré tout dans les cours quand il s'agit justement de penser l'universalité des normes, qu'elles soient morales, esthétiques, etc., ou bien leur relativité avec cette tension qui, je crois, va être au cœur quand même de notre réflexion, hein, la tension entre l'universalité et la relativité des cultures. Ensuite, bon, je ne voudrais pas être exhaustif, c'est difficile, mais il me semble que la notion de raison, qui est une notion également du programme, est impliquée par ce sujet, puisque comme on le disait tout à l'heure, la question qui peut se poser, c'est de savoir si un désir peut être fou, peut être déraisonnable, là encore, en soi, ou bien si les normes sont simplement relatives à chaque société, la société étant une notion du programme également. J'ai bien aimé ce qu'a dit Alice tout à l'heure, d'emblée, lorsqu'elle a parlé du désir et du poids social qui peut peser sur nos désirs, à travers la cité, la publicité, etc. Il y a bien d'autres manières par lesquelles la société peut jouer pour nos désirs. Et peut-être que l'élève peut être amené dans ce sujet à réfléchir à l'inverse sur une normalisation excessive du désir. C'est-à-dire, le désir normal, est-ce que ce n'est pas justement le désir normé? Est-ce que ce n'est pas le désir qui nous est imposé de l'extérieur, auquel nous devons nous conformer dans le cadre du conformisme? Et dans ce cas-là, si on suit un petit peu ce que voulait dire Alice, je crois, au début, est-ce qu'à l'inverse, la liberté du sujet, est-ce que ma liberté ne consisterait pas au contraire à revendiquer la normalité, à l'apostrophe, hein, bien sûr, la normalité avec une apostrophe. Donc, la normalité étant ici vue non pas comme quelque chose de négatif et de péjoratif, mais au contraire comme la possibilité d'échapper à une normalisation excessive des désirs par la société.
Ce qui, Marc Rosmini, pose un autre problème, à savoir le problème d'un désir qui se déterminerait uniquement par opposition au désir dont le sujet pense qu'on les lui impose. Et ce qui ferait de ce désir, en un sens, le tributaire, justement, des désirs auxquels il s'oppose. Et donc, d'une certaine façon, il serait contraint d'affirmer une liberté qui, au fond, n'aurait de liberté que le nom.
Bien évidemment, ce qui fait qu'effectivement, le désir va toujours se déterminer chez l'homme par rapport au désir des autres, soit par imitation, soit par opposition, et peut-être par libération, si on peut justement échapper ce plan binaire entre se conformer au désir ou bien choisir le désir opposé, donc s'y conformer aussi, comme vous le dites tout à fait clairement, s'y conformer aussi par contraste, quoi.
Il faut qu'on aille, puisque le temps passe, et que, après tout, l'épreuve du baccalauréat est une épreuve en temps limité, et que nous-mêmes devons jouer ce jeu, Marc Rosmini, il faut qu'on aille vers la problématique, vers la construction du plan, et puis le détail des parties.
Alors, donc, les exercices qu'on aurait pu faire, qu'on ne fera pas, parce qu'effectivement, le temps passe et il faut avancer, ça serait donc rechercher des exemples problématiques, mais je vais les évoquer dans le développement, et ensuite les références au cours. Hein. Donc, si vous voulez, je peux vous proposer le plan que je suivrai, hein, qui n'est encore une fois pas un modèle, mais qui est une possibilité. Donc, dans une première partie, je me demanderai s'il est légitime de juger un désir, de manière générale. Est-ce qu'il est légitime de juger un désir ? Dans la deuxième partie, je me demanderai s'il existe des normes universelles qui permettraient de juger les désirs. Et enfin, par rapport à ce que je disais à l'instant, dans une troisième partie, est-ce qu'on peut revendiquer en toute conscience la normalité, à l'apostrophe, j'insiste, puisqu'oralement l'ambiguïté peut exister, la normalité de son désir. Donc voilà les trois parties que je vous propose de développer jusqu'à la fin de notre discussion.
Et avant de rentrer dans le détail de ces trois parties, s'il fallait, pour mémoire, pour l'auditeur comme pour vos élèves, résumer tout cela dans une question qui serait donc la question à laquelle il faut répondre, en quels termes formuleriez-vous cette question, Marc Rosmini ?
Si on devait reformuler la problématique, je crois que elle est double malgré tout. Hein. C'est-à-dire, il y a malgré tout cette idée. Est-ce qu'il est légitime de porter un jugement sur un désir qui ne reste que désir, hein. Donc, est-ce qu'il faut juger ? Est-ce qu'il est légitime de juger quelque chose qui est intérieur à la conscience de l'homme ? Et comment en juger, hein. Donc voilà. Donc il y a quand même ces deux aspects-là qui me semblent devoir être développés par l'élève, puisque le plan d'une dissertation, je pense, enfin c'est ce que je conseille à mes élèves en tout cas, c'est une manière justement de décomposer le sujet et de comprendre les différentes manières par lesquelles on peut l'aborder. Voilà. Donc je pense qu'il est difficile d'échapper au moins à ces deux questions-là.
Allons vers la première partie, donc qui porte sur la légitimité de juger un désir. Est-ce que vous conseilleriez par exemple à vos élèves de partir d'un exemple ou d'une citation ou d'un texte classique ? Après tout, tous les départs sont légitimes dans la mesure où on n'est pas dans une cosmétique, où la citation n'est pas là comme du rouge à lèvres ou comme du maquillage pour recouvrir justement l'absence de travail, où l'exemple donné n'est pas non plus excessivement trivial ou bien banalement traité. En somme, quel point de départ vous proposeriez ?
Moi, je proposerais par exemple comme point de départ un exemple qui vient souvent à l'idée des élèves quand on aborde ce genre de questions, ça serait pourquoi pas l'exemple de la pédophilie. Très souvent, les élèves m'ont dit que la pédophilie est un désir illégal. Alors oui, la notion de désir illégal, elle est intéressante à travailler justement, parce qu'en soi, bien évidemment, il n'existe dans un état de droit aucun désir illégal, tant que le désir reste à l'état de désir. Donc cette notion qui est totalement ambiguë de la pédophilie comme désir illégal va permettre à l'élève non seulement de s'interroger peut-être sur la pédophilie elle-même et sur sa normalité ou son anormalité, mais surtout, dans cette première partie, sur la possibilité qu'on aurait de normer les désirs de l'intérieur, si j'ose dire. Et donc, la distinction que l'élève devrait faire très clairement entre le désir, l'expression du désir et la satisfaction du désir, je crois qu'il faudrait la faire d'emblée, à propos, par exemple, de cette étrangeté de désir illégal. Donc, à partir de là, l'élève pourrait justement expliquer que si le désir pouvait être jugé, il ne pourrait être jugé que par deux instances. Le sujet lui-même, qui a conscience de son désir et qui le rejette comme quelque chose d'anormal, ou bien, comme on le disait, par un être transcendant qui aurait cette capacité à lire dans les consciences, en quelque sorte. Hein. Donc ici, l'élève, si on part du côté des références, et ça va être l'occasion pour moi aussi de parler de quelque chose sur l'usage des références, on pourrait, pourquoi pas, et évoquer les stratégies justement de culpabilisation. Hein, c'est-à-dire comment est-ce que la société, et notamment les religions, peuvent faire en sorte de culpabiliser le désir de l'intérieur en créant par exemple cette étrangeté de notion de péché d'intention. Et comment est-ce qu'une intention peut être un mal ? Comment est-ce que l'intention elle-même peut être mauvaise, même si elle ne se réalise pas ? Alors ici, l'élève pourrait, parce que c'est des notions qui sont assez connues par les élèves, évoquer la notion de surmoi. La notion de surmoi, donc, qui chez Freud évoque cette intériorisation des tabous, des interdits, qui fait que le sujet va se juger lui-même. Et si je peux prendre une minute, je crois qu'il faut faire très attention lorsque les élèves utilisent les notions freudiennes, notamment. Beaucoup d'élèves ont tendance à prendre la pensée de Freud comme une vérité révélée, bon, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliciter. Et il faut vraiment qu'ils se méfient. La théorie freudienne est une théorie qui a un intérêt, mais elle doit être présentée toujours comme une hypothèse. Elle n'a pas de valeur factuelle. Et donc les élèves parlent parfois de « mon surmoi »,« mon ça », etc., comme s'ils parlaient de leur bras ou de leur tête. C'est assez gênant d'un point de vue, j'irais, épistémologique, du point de vue de la validité du savoir et du point de vue de l'usage de l'argument d'autorité. Voilà. Je crois que l'élève doit se garder d'user d'une citation ou d'un concept ou d'une référence comme d'un argument d'autorité en disant « Freud a bien prouvé que nous avons un surmoi, donc, etc. »
Non, mais en revanche, construire une argumentation qui justifie ultimement l'emploi, justement, d'une telle citation, par
voilà,
exemple.
Voilà,
alors, en l'occurrence, mentionner le surmoi, donc, si je vous comprends bien, il serait maladroit de commencer par l'exposé du surmoi, mais peut-être faudrait-il en venir à la nécessité d'évoquer la question du surmoi freudien.
Oui, tout à fait. Mais on pourrait l'évoquer, encore une fois, mais avec la prudence nécessaire et avec l'instrument argumentatif qui doit accompagner toute référence. Voilà, c'est là-dessus que je voulais insister. Mais effectivement, l'élève qui connaîtrait un petit peu la pensée de Freud pourrait développer cette idée que, selon Freud, il est tout à fait normal d'avoir des désirs meurtriers, d'avoir des désirs incestueux, d'avoir toutes sortes de désirs que la société peut considérer comme transgressifs. Et d'ailleurs, Freud définit l'enfant comme un pervers polymorphe. Donc justement, comme celui, donc c'est là aussi c'est une référence assez connue, comme celui qui a potentiellement tout ce que la société va considérer comme des perversions. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de... On ne va pas se prononcer ici sur la validité de la thèse de Freud, mais ce qui est intéressant pour l'élève, c'est de montrer qu'on peut opposer une norme morale, une norme religieuse, à quelque chose qui relèverait d'une norme naturelle, en quelque sorte. Si le désir d'inceste est normal, l'interdit de l'inceste va contre une certaine tendance naturelle de l'esprit humain.
Et par là même, redéfinir la notion de perversion, peut-être Marc Rosmini, puisque la perversion n'est pas tant le désir d'inceste en lui-même que la condamnation morale ou le fait d'interdire publiquement le fait d'avoir un désir et par conséquent de s'abriter derrière l'interdit qu'on brandit pour ne pas être soi-même suspect d'un tel désir.
Absolument, puisque la notion de perversion se réfère toujours à une image idéale qu'on se ferait de l'enfance, par exemple, en l'occurrence. Donc effectivement, la notion de perversion suppose déjà l'usage d'une norme. Donc d'une certaine manière, le fait même que Freud parle de pervers polymorphe, c'est déjà une manière aussi de reprendre une norme, finalement, qui préexiste.
Marc Rosmini est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce vendredi, à l'issue de la première des deux semaines que les Nouveaux Chemins de la Connaissance consacrent au bac philo. Peut-on dire d'un désir qu'il est anormal? C'est la question du jour. Et Lemon Incest, c'est également la chanson du jour. Marc Rosmini, à la lumière de ce qu'on vient de se dire, est-ce qu'on peut considérer que quand Serge Gainsbourg chante avec sa fille Charlotte une chanson qui s'appelle Lemon Incest, qui est une chanson ouvertement provocante, provocatrice, est-ce que Gainsbourg, de ce point de vue, est pervers ou est-ce qu'il est moins pervers que ceux qui disent que cette chanson est une honte et qu'elle devrait en un sens être interdite ?
Oui, la question du scandale ici, elle est très intéressante parce qu'effectivement, moi, je me rappelle de l'époque où cette chanson était sortie.
Et du scandale considérable que cette chanson avait fait.
Voilà, aussi considérable que celui de la Marseillaise en reggae. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Gainsbourg s'amuse avec le tabou, hein, puisque les anthropologues ont montré que dans toutes les sociétés, il y avait une forme, en tout cas, d'inceste qui était interdite, même si c'est pas souvent la même forme dans les différentes sociétés. Mais c'est quand même un tabou assez intéressant. Et ce que dit d'ailleurs Gainsbourg très bien dans la chanson, c'est qu'il ne revendique pas la possibilité du passage à l'acte à aucun moment. Hein. Au contraire, mais il revendique
simplement... Il dit l'amour que nous ne ferons jamais
exactement,
ensemble.
Exactement. Donc, il revendique la possibilité d'exprimer un désir qui sorte justement de la norme. Et moi, je pense que Gainsbourg n'est pas pervers en faisant cela, mais que simplement, il évoque là aussi quelque chose qui peut-être existe factuellement chez tous les sujets, mais qui se heurtera aux tabous et aux interdits. Mais ça évoque vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'œuvre d'art comme catégorie intermédiaire, finalement, entre le désir et l'acte, puisque l'œuvre d'art, c'est aussi un acte. C'est-à-dire donner une vision... une vision positive de l'inceste ou une vision du moins plus ou moins valorisée de l'inceste, c'est quand même un acte. On sait qu'il y a eu des scandales ces dernières années autour de romans, autour d'expositions qui donnaient de la pédophilie, par exemple, une image qui était censée être trop positive.
Est-ce que dans une première partie où vous posez la question de la légitimité de juger le désir, Marc Rosmini, un argument comme celui selon lequel les juges sont rarement eux-mêmes exemptés du désir qu'ils condamnent, c'est-à-dire par exemple le problème de la pédophilie dans l'Église, tout simplement, est-ce qu'un tel problème est un argument recevable, est un argument intéressant, est-ce que tout simplement simplement, ça permet d'illustrer le problème, la difficulté à la fois de juger un désir et, en jugeant le désir, de se donner le sentiment qu'on est soi-même, justement, exonéré d'un tel désir.
Oui, c'est le monstre, c'est toujours l'autre. Hein. Et effectivement, si on, tout à l'heure, je prenais l'exemple de la pédophilie, il est assez intéressant aussi de voir les stratégies, y compris verbales, selon lesquelles celui qui a des désirs anormaux va être finalement rejeté de l'humanité, quoi, comme on va le qualifier de monstre, etc. Donc c'est bien sûr une manière aussi de tenir à distance en soi les désirs qui pourraient nous apparaître à nous-mêmes anormaux. Donc il y a quelque chose ici sur lequel on pourrait réfléchir, sur l'hypocrisie, effectivement, qui pourrait être un exemple assez intéressant. Bon, à manier peut-être avec prudence le jour du baccalauréat.
Justement,
pour les
c'est pour ça que je vous posais la question. C'est-à-dire, voilà. Jusqu'où peut-on aller trop loin dans les références?
Voilà, nous sommes aussi dans le cadre d'un examen et l'élève doit quand même garder peut-être une certaine prudence par rapport à un engagement qu'il pourrait prendre. Parce que le risque aussi de l'élève, c'est peut-être de céder à la passion. Et le sujet de la pédophilie, Dieu sait s'il est passionnel. Et le sujet de la pédophilie dans l'église aussi. Donc je pense que là, l'élève pourrait peut-être perdre de son recul par rapport au sujet. Après, je ne crois pas qu'il y ait d'exemple interdit. Hein. Pour moi, je veux dire, on peut parler de tout dans une dissertation, mais en parler avec prudence.
On arrive, il faut qu'on aille au terme de cette première partie. Juste, Marc Rosmini, comment concluriez-vous la première partie de manière à justifier qu'on enchaîne sur la deuxième partie? Après, on va demander leur avis à vos élèves.
Eh bien, pour aller peut-être un peu trop vite, je dirais que l'élève pourrait aussi, parce que c'est une référence qui est très connue des élèves qui suivent les cours de philosophie en France, se référer ici à Épicure, pour en guise de transition. Épicure qui propose une très classique et très connue classification des désirs, justement, sans jamais parler, attention, d'anormalité. Hein. Donc le terme d'anormal n'apparaît pas chez Épicure, mais malgré tout, Épicure distingue des désirs naturels et nécessaires, des désirs naturels et non nécessaires, et des désirs vains et chimériques, etc. Donc ce qui est intéressant d'abord, c'est un, de voir que Épicure ne porte pas un jugement moral sur le désir. Il ne dit pas il y a des désirs moraux et des désirs immoraux. Il dit il y a des désirs qui sont plus ou moins conformes au bonheur que l'on peut atteindre. Et les désirs vains et chimériques, on ne va pas les rejeter pour des questions morales, mais on va les rejeter parce qu'ils sont difficiles à satisfaire et donc vont nous laisser dans la frustration. Et en guise de transition, je dirais que justement, malgré tout, ce qui peut être problématique chez Épicure, c'est qu'en parlant de désirs naturels, il prend malgré tout la nature comme une norme et donc il tend à penser que son classement peut être universel.
Parmi les désirs, hein, il y en a qui sont, c'est Épicure qui parle, ce sont les maximes d'Épicure. Parmi les désirs, il y en a qui sont naturels et nécessaires, d'autres qui sont naturels mais non nécessaires, d'autres enfin qui ne sont ni naturels ni nécessaires, mais des produits d'une vaine opinion. Ça dépend des traductions, bon, disons-le comme ça. Marc Rosmini, on sent bien qu'en citant Épicure au terme de cette première partie, vous justifiez ce que vous annonciez au début dans l'introduction, à savoir le fait que la deuxième partie porterait sur la question de la norme et de l'universalité de la norme.
Absolument, de savoir si on peut trouver des normes qui existeraient dans la nature humaine et qu'on pourrait appliquer donc partout et toujours pour juger des désirs. Donc c'est comme ça que j'utiliserais Épicure en guise de transition.
Nadèle.
Oui, vous avez beaucoup insisté au début de la première partie, en tout cas. Entre l'introduction et la première partie, sur l'importance des exemples. Alice Agier, par exemple, quelle référence, quel exemple littéraire, cinématographique ou même tiré de la vie quotidienne vous vient à l'esprit pour traiter, par exemple, cette première partie?
Moi, en fait, pendant que vous parliez, j'ai pensé au film Minority Report, où en fait, finalement, on en revient à arrêter des gens et à les emprisonner pour un meurtre qu'ils ont juste pensé et que finalement, ils n'ont pas eu le temps de commettre puisqu'on les a arrêtés avant. Et donc ça pose la question de finalement, est-ce qu'ils l'auraient vraiment fait ou est-ce qu'on aurait pu juste les convaincre d'arrêter ou est-ce que c'est vraiment nécessaire de les emprisonner alors que finalement ils n'ont rien fait?
Oui, donc là ça pose toute la question de la différence entre le désir et le passage à l'acte dont parlait votre professeur juste avant. Étienne Farrier.
J'ai pensé à l'exemple de Phèdre, de la pièce de théâtre, dans laquelle Phèdre est amoureuse du fils de son mari Thésée, Hippolyte, et elle se condamne elle-même à la fin en se donnant la mort à cause de ce désir qu'elle juge immoral. Et à ce moment-là, ça pose la question de que faire si justement on juge que ce désir est anormal. À ce moment-là, quelle solution apporter?
Donc vous restez dans la question du jugement sur laquelle vous avez déjà insisté. En quelle référence est-ce que ça vous fait? Et Quentin Vakoviak?
En fait, il y a l'exemple d'Épicure qui m'a donné une idée, c'est que je pense qu'on peut dire qu'un désir est généralement issu d'un besoin, c'est-à-dire qu'il y a une recherche de quelque chose. Ce désir, il va vouloir satisfaire un besoin qui soit moral, physique ou quoi que ce soit. Et la classification d'Épicure, ça me rappelait la pyramide de Maslow, qui lui fait une classification des besoins selon un grade. Et finalement, ces désirs qu'on pourrait qualifier d'anormaux seraient des désirs qui viendraient de besoins qui ne sont pas dans cette pyramide. Et je pense qu'ils n'en existent pas, puisque finalement, chaque désir, on pourrait lui associer un besoin antérieur qui se justifie.
Donc là, on a trois catégories d'exemples bien différents, puisqu'on a des exemples à la fois Minority Report, le FEDRE et la pyramide de Maslow. Donc c'est vraiment, ça vient de trois domaines complètement différents. Marc Rosmini.
Oui, mais au contraire, hein, je crois que l'intérêt de la philosophie consiste justement à pouvoir problématiser des connaissances qui viennent de tous les domaines. Je veux dire, il n'y a pas de connaissances qui ne puissent être analysables philosophiquement d'une manière ou d'une autre. Donc je crois que les références qui sont proposées par les élèves sont bien choisies, d'autant plus qu'elles sont maîtrisées, qu'elles sont articulées au sujet. Et là encore, le problème pour l'élève, c'est bien de montrer le rapport entre l'exemple ou la référence qu'il prend et le sujet posé. Et à partir de là, tout est possible.
Sachant qu'un même exemple peut être utilisé de façon tout à fait différente. Par exemple, Phèdre. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables, d'un sang qu'elle poursuit, tourments inévitables. En d'autres termes, c'est pas de ma faute. C'est Vénus qui m'a condamné, c'est Vénus qui a fait de moi la victime que je suis. Phèdre peut être employé à la fois comme quelqu'un qui se juge, hein, c'est ce que vous proposiez, mais on peut aussi considérer que Phèdre se tue de constater qu'Hippolyte ne l'aime pas et qu'il est amoureux d'Aricie, de sorte que le désir ne se jugerait pas lui-même en l'occurrence, mais se verserait tout simplement dans une jalousie. D'ailleurs, certaines mises en scène insisteraient davantage sur cet aspect-là du personnage de Phèdre, de sorte que le même exemple, Marc Rosmini, peut être employé différemment.
Et oui, puisque tout à l'heure j'ai dit un bon exemple, c'est un exemple sur lequel on peut hésiter justement. Hein. Donc si l'hésitation est permise, c'est bien que l'exemple peut donner lieu à une, selon la façon, comme vous le dites, dont on l'analyse, peut donner lieu à des interprétations différentes, un éclairage différent du sujet. C'est ce qui caractérise le bon exemple, je crois, d'ailleurs.
Il nous reste un quart d'heure pour faire deux parties et une conclusion. Élève Rosmini, vous allez devoir accomplir des performances. On est dans la deuxième partie, allons quand même au cœur du sujet. La question de ces normes universelles, dont on a vu qu'elle était dictée par l'emploi d'Épicure à la fin de la première partie, qui portait, elle, sur la légitimité et de juger le désir.
Alors, nous allons être donc rapide, donc un brin elliptique, mais encore une fois, je renvoie à des connaissances qui sont souvent maîtrisées par les élèves. Et puis, en plus, j'insiste sur le fait que l'élève ne doit pas utiliser énormément de références, forcément, dans sa dissertation. Il vaut mieux une ou deux références bien maîtrisées, qu'il a bien vues en cours et bien comprises, plutôt qu'une accumulation de citations, un collage hétéroclite qui, là aussi, relève de la poudre aux yeux, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors, sur la deuxième partie, donc rapidement, j'aborderai trois points. Le premier point, ça serait bien sûr, alors là l'élève aurait l'embarras du choix, de désirs qui peuvent apparaître normaux dans une société et complètement anormaux dans une autre. Alors, on parlait de la pédophilie tout à l'heure, mais pourquoi ne pas évoquer une pratique sexuelle aussi que l'homosexualité, hein, qui dans beaucoup de sociétés peut être considérée comme anormale, étant même sous le coup de la loi, et dans d'autres était ou est complètement intégrée aux pratiques. Donc je crois qu'il pourrait être intéressant
voire normative. Voire normative,
absolument.
Il est des lieux où l'anormalité est davantage la honteuse hétérosexualité qui est cantonnée à la nécessité de se reproduire.
Tout à fait, sans parler d'actes qui seraient considérés aujourd'hui comme pédophiles et qui pouvaient être intégrés à des rites de passage dans certains peuples, etc. Donc ici, l'élève a l'embarras du choix pour donner une petite leçon peut-être justement de tolérance et se méfier d'un ethnocentrisme naïf selon lequel les normes absolues, ce sont les normes de ma société. Donc ça, je pense que c'est des choses assez bien connues. Donc voilà, le cannibalisme, on pourrait prendre aussi pas mal d'exemples autour de l'alimentation, la cynophagie, le fait de manger des chiens, des insectes, etc. Bon là, l'élève a l'embarras du choix. On pourrait travailler aussi deux exemples qui interrogent peut-être plus radicalement l'idée de nature et de nature humaine. C'est-à-dire, y a-t-il des désirs qui seraient en soi contradictoires avec la nature de l'homme ? Alors, on va éliminer tout ce qu'on a dit tout à l'heure, le cannibalisme, l'homosexualité, qui ne sont pas contraires à la nature de l'homme. Mais on pourrait travailler d'abord sur le désir de suicide, hein, le se donner la mort. Alors, est-ce que le désir de se donner la mort est un désir anormal ? Ici, je crois que l'élève qui connaîtrait un petit peu Spinoza, qui aurait entendu parler du conatus, donc ce désir de tout être, de persévérer dans son être, hein, dont il est question dans l'éthique, pourrait réfléchir sur le suicide dans la mesure où Spinoza a écrit quelques passages de l'éthique. Ils sont sur le site, hein, je ne voudrais pas alourdir en citation, mais on pourra les retrouver facilement. pose la question du suicide. Et pour Spinoza, le suicide est un désir anormal, en quelque sorte, non pas pour des raisons morales, il n'y a aucune condamnation morale du suicide, mais pour des raisons ontologiques, pour des raisons qui tiennent à la nature même de l'être.
Ce qui est très intéressant, c'est que Spinoza, hein, qui n'est pas un philosophe du jugement, permet de penser l'anormalité, avec un L apostrophe, d'un désir qui, en l'occurrence, au fond, pour Spinoza, en un sens et paradoxalement, n'est pas tout à fait un désir, en tout cas n'est pas un désir qui viendrait de l'individu lui-même.
Exactement. En quelque sorte, le désir de se suicider, en fait, n'existe pas. L'individu qui croit vouloir se suicider est, en fait, toujours vaincu par des causes extérieures, dont il a conscience ou pas. Donc, il y a des exemples précis. Bon, c'est Sénèque qui est poussé au suicide par Néron.
Caton.
Voilà. Mais Spinoza dit même le dépressif, même celui qui a l'impression d'avoir le mal en soi, mais en fait, ce mal ne vient pas de son être lui-même. C'est une intrusion de l'extériorité en soi, et l'individu n'est jamais vaincu que de l'extérieur. Donc ici, il y a quelque chose qu'on pourrait creuser. Bon, on n'a malheureusement pas le temps, ça mériterait beaucoup plus de... Mais j'indique simplement pour les élèves qui auraient travaillé cette référence, parce qu'elle est très intéressante, parce que d'une certaine manière, Spinoza nous montre que le suicide ne peut pas être pensable ontologiquement. Encore une fois, ce n'est pas un jugement moral, mais il est anormal du point de vue de la nature même de l'être, encore une fois, qu'un être veuille se mettre fin à ses propres jours. Le deuxième exemple sur lequel je travaillerai, qui n'est d'ailleurs pas très éloigné, c'est le désir d'être un autre. Est-il normal de vouloir être un autre? Et ici, j'utiliserai le film de David Fincher, Fight Club. Alors, Fight Club peut être utilisé dans cette dissertation, d'ailleurs, dans les différentes parties, hein, je crois. D'abord parce que Fight Club commence par une mise à distance des désirs trop normés, hein, dont parlait Alice tout à l'heure, hein, les revues Ikea.
Son surnom au début, c'est Ikea Boy.
Tout à fait.
Garçon Ikea.
Tout à fait. Hein, ces revues de mobilier qui ont remplacé les revues porno selon Cornelius, etc. Ensuite, Fight Club peut être aussi vu comme un catalogue des désirs anormaux et transgressifs, la violence régressive, le suicide, le masochisme, etc. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que Cornelius, finalement, dans Fight Club, passe d'une aliénation, l'aliénation du désir trop normé, à une autre forme d'aliénation, puisque le désir de Cornelius peut être considéré comme anormal dans la mesure où il lui échappe, en fait. Non pas, là encore, pour des raisons morales, mais parce que son désir de changer le dépasse et il devient un autre sans s'en rendre compte. Et donc là, il y a quelque chose qui peut être intéressant de travailler pour l'élève, c'est cette idée que nous sommes dans une figure de l'aliénation du sujet, et une figure de la folie, finalement, puisqu'il y a un dédoublement de l'être. Et donc, on pourrait considérer qu'il n'est pas anormal pour l'homme de vouloir changer, même radicalement, mais qu'il pourrait être anormal de vouloir changer à tel point que ce désir nous échappe et que nous devenions un autre sans nous en rendre compte. Donc ici, je terminerai la deuxième partie. Vous voyez que je suis allé vite, hein, comme vous l'aviez demandé. Il faudrait développer tout ça. Mais je terminerai cette deuxième partie en disant que finalement, le désir peut être anormal dans la mesure où il échappe à l'individu, où il est inconscient, où c'est une figure de l'inconscience, justement, hein, où c'est une figure de l'inconscience.
Alors, toutes nos excuses, hein, à ceux d'entre nos auditeurs qui n'ont pas vu Fight Club et dont vous révélez en un sens le fin mot, Marc Rosmini. Juste encore un point avant de passer à la troisième partie, en saluant d'ailleurs la concision et la précision avec laquelle vous êtes allé au terme de la seconde. Quid de... vous avez parlé du désir d'être un autre. Quid, par exemple, du transsexualisme, quid de la zoophilie, qui sont bien souvent représentés, désignés par une société donnée comme prototype d'un désir anormal. Qu'en est-il, au fond, comment ne pas réagir face à des cas de figure comme cela, comme Obélix se tapant la tête en disant « mais ils sont fous, ces Romains ».
Alors, c'est des exemples auxquels j'avais bien sûr pensé également. Moi, ce qui me semble intéressant dans ces exemples, c'est que l'élève va être obligé de travailler la norme, encore une fois. Quelle est la norme qui consisterait à considérer que la zoophilie ou le transsexualisme sont anormaux? D'une certaine manière, le transsexualisme ne fait que pousser à l'extrême une tendance qui me semble inscrite dans l'humanité elle-même, c'est-à-dire d'échapper justement aux besoins purement naturels, d'échapper à ce qui nous est déterminé, hein, ce qui nous est donné. Et d'une certaine manière, on pourrait dire qu'à peu près tous les désirs des hommes, j'anticipe un peu sur ma conclusion, mais ce n'est pas grave, que le désir est en soi anormal. Si justement le propre du désir, c'est d'aller au-delà du besoin et d'aller au-delà de ce que la nature nous dicte comme ce que nous devons être. Donc le transsexualisme, finalement, est une figure possible de l'humanité qui ne me semble pas ni plus ni moins anormale que les autres, dans la mesure, encore une fois, où toutes nos pratiques sexuelles ou alimentaires, pour reprendre des exemples que j'ai déjà pris, sont d'une certaine manière anormales, puisqu'elles relèvent toujours de normes en partie arbitraires que les hommes se sont créés. Donc voilà, je pense
il serait sur un tel sujet d'ailleurs extrêmement fécond, mais c'est un auteur qu'on lit peu en terminale, c'est bien dommage de travailler Michel Foucault.
Absolument.
Et son histoire de la sexualité, Marc Rosmini. Peut-être on donnera sur le site d'ailleurs quelques références précises, notamment des passages de Foucault sur le transsexualisme. Le temps passe, hein, encore une fois, il faut aller vers la troisième partie. Comment sortez-vous de ces impasses? Comment peut-on revendiquer, puisque c'était l'objet de la troisième partie, la normalité de son désir? Là encore avec un L apostrophe.
Alors nous allons être encore plus synthétiques. Il me semble qu'on pourrait travailler ici, donc non pas sur un désir qui serait subi et qui échapperait à l'individu, mais sur un désir qui volontairement en fait voudrait s'écarter de la norme ou du moins voudrait assumer une certaine singularité. Alors il y aurait beaucoup d'exemples ici du côté du happening par exemple. Je crois que les élèves qui ont un petit peu de culture sur l'art contemporain pourraient aller chercher des pratiques dans le happening où effectivement des choses ont été faites, ont été voulues, qui peuvent paraître très étranges quand on les regarde de l'extérieur. Mais je voudrais dire quelques mots sur un film de Sean Penn cette fois-ci, Into the Wild, notamment parce que c'est un film que les élèves ont souvent vu. Et alors Into the Wild, d'abord, on pourrait le travailler, comme on l'a dit sur Fight Club, sur la volonté de résister à une normalisation excessive du désir, puisque finalement, le personnage central de ce film refuse de continuer ses études, refuse de chercher un travail, refuse la nouvelle voiture qu'on lui offre. La société tend à nous faire rêver de nouvelles voitures modernes, etc. Il refuse tout ça, il brûle son argent, il brûle ses papiers. Donc il y a vraiment une résistance active et tout à fait consciente. C'est ça peut-être qui le distingue de Fight Club. Donc ça serait intéressant que les élèves voient les deux films. Qui le distingue donc du côté finalement aliéné hein, du désir de Cornelius qui lui échappe. Sean Penn aussi dans ce film pose une question intéressante. C'est est-ce qu'il est anormal de vouloir être seul? Puisque finalement la résistance au désir fait que le personnage va résister à l'enracinement, il va résister au désir des autres aussi, au désir de ceux qui voudraient le garder avec lui. Donc il va choisir la solitude. Ici, on pourrait retravailler Spinoza, on pourrait travailler Aristote aussi, bien sûr. L'homme est un animal politique. Hein,
et la fin de la quatrième partie de l'éthique de Spinoza, où il dit que l'homme est plus libre dans la cité où il vit selon la loi commune que s'il vit comme un ermite.
Exactement, et que rien n'est plus utile à l'homme que l'homme lui-même, hein, c'est dans l'éthique aussi. Donc est-ce que ce désir qui va jusqu'à s'émanciper d'une certaine définition de l'homme qui semble commune est anormal ou pas? Sean Penn ne juge pas, mais en tout cas ce que l'élève pourrait dire, c'est que de toute évidence, si on juge un désir anormal, c'est qu'il faut d'abord avoir défini ce qu'est la nature humaine. Et ce qui est complexe ici, c'est de se mettre d'accord justement sur la nature humaine. Finalement, ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans les trois parties. S'il y a anormalité, c'est bien qu'il y a à un moment la définition normative de ce qu'est l'homme. Si l'homme est un animal politique, vouloir vivre seul, alors effectivement, est un désir anormal. C'est ce que dit Aristote, d'ailleurs.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction en même temps dans le fait de pointer, comme vous l'avez proposé, hein, la relativité des normes? C'est un argument, c'était au début de la deuxième partie. Les normes sont relatives, temporelles, spatialement, géographiquement et temporellement. Les normes sont relatives, elles ne sont pas les mêmes partout, ni à toutes les époques. Donc de ce point de vue, il n'y a pas de norme absolue, de sorte que la normalité, enfin en un mot donc, avec un L apostrophe, est en elle-même un problème. Mais si toutes les normes sont relatives, est-ce que la revendication d'anormalité n'est pas en elle-même justement relative? Est-ce que finalement il n'y a pas une norme de l'anormalité, un académisme de l'insoumission? Est-ce qu'au fond, quelqu'un qui prétendrait être anormal ou qui se flatterait de ne pas être soumis lui-même aux normes d'une société donnée ne tomberait pas, ne courrait pas le risque de tomber dans une autre forme de normativité?
C'est donc effectivement un sujet qui pose la question de la difficulté de construire vraiment sa subjectivité, de se construire en tant que
c'est
sujet.
C'est très difficile d'être marginal.
Oui,
il y a des académies, comme il y a des villages d'ermites chez les Monty Python, on pourrait penser à des académies de marginaux.
Tout à fait. Et si on pense à des académies de marginaux, peut-être que l'exemple sur lequel on pourrait terminer cette deuxième partie, c'est l'exemple du philosophe. Je crois qu'il est souvent intéressant que l'élève, dans une dissertation, fasse en quelque sorte une méta-réflexion, c'est-à-dire qu'il réfléchisse en même temps sur ce dont il parle et puis sur ce que c'est que faire de la philosophie. Parce que finalement, le désir de vérité, le désir de sagesse qui guide le philosophe, puisque philein, le philein de philosophie, c'est le désir aussi, hein, c'est désirer quelque chose. Est-ce qu'il est normal? Pour la plupart des gens, il est très bizarre, il est très étrange, et même pour beaucoup d'élèves. Je crois que le professeur de philosophie passe aux yeux de beaucoup d'élèves, il pourrait en témoigner, comme un être étrange, bizarre, qui a un désir anormal. Et beaucoup de textes pourraient travailler ici, j'en ai mis en bibliographie, mais je crois qu'un texte sur lequel l'élève pourrait travailler, parce qu'il est connu de presque tous les élèves de France, je l'ai constaté en discutant avec des collègues, etc., c'est la fameuse première méditation métaphysique de Descartes. Et là aussi, je disais tout à l'heure, un élève qui a un sujet sur le désir, il ne pensera pas forcément à utiliser la première méditation. Pourtant, ce désir de refonder le savoir humain, depuis son commencement. Ce désir de remettre en cause et en doute des choses qui paraissent les plus évidentes. Mais est-ce que c'est normal, ça? Mais pour les élèves, non. D'ailleurs, très souvent, l'élève dit, mais il est fou, c'est quoi Voilà. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que le désir qui guide le philosophe, le désir de Sophia, le désir de sagesse, eh bien, c'est d'un désir qui... Alors, de manière peut-être systématique, comme vous le disiez, hein, M. Antoven, c'est possible, mais en tout cas, c'est un désir qui l'amène à prendre un minimum de distance par rapport aux désirs les plus communs, par rapport aux désirs imposés. Et c'est ce qui fait aussi la figure étrange du philosophe, et c'est ce qui fait que finalement, on pourrait conclure cette troisième partie là-dessus, que si la philosophie a une valeur, hein, je ne sais pas, mais on peut en faire l'hypothèse, si la philosophie a une valeur, alors le terme d'anormalité, la normalité prend une connotation finalement positive au terme de cette analyse, puisque d'une certaine façon, si le philosophe est anormal, alors il peut être anormal, peut avoir une valeur.
Alors à l'issue hein, de cette dissertation, Marc Rosmini, il est intéressant aussi d'avoir l'avis des apprentis philosophes, que sont vos élèves, Adèle.
Oui, exactement. Là, vous venez d'entendre hein, le développement, l'analyse de ce sujet, les trois parties et une conclusion. Est-ce que vous souscrivez à la conclusion de votre professeur ou est-ce que vous vient à l'esprit une autre conclusion possible et qui vous paraît tout à fait plausible au regard des analyses qui ont été faites du sujet Étienne Ferrier, par exemple?
Ben, je pense que c'est très difficile de sortir du normatif, comme vous l'avez dit. Quoi qu'on fasse, il y aura toujours quelqu'un qui aura peut-être les mêmes désirs que nous et il sera très difficile de s'écarter de la société sans subir des conséquences qui peuvent être assez néfastes pour l'individu.
Donc vous insistez sur l'importance du normatif, de la définition normative de l'homme.
Oui.
Alice.
Ben moi je pense que ouais je suis d'accord que enfin quand on décide de pas se plier à une règle, on se plie aussi à une règle puisque on a la règle de pas suivre la règle précédente. Et donc du coup finalement on est toujours dans des normes. Et donc finalement, voilà, moi je conclurai en disant que bah, les normes, c'est finalement nous qui les décidons, mais qu'il faut aussi qu'on s'adapte à celles que la société impose, mais pas forcément dans les désirs, plutôt dans les actions.
Dans les actions. Et Quentin Vakovia, qu'est-ce que vous concluez qu'on peut dire d'un désir qu'il est anormal? Vous insisteriez sur quel aspect en conclusion, d'après ce que vous avez entendu?
Pour dire qu'un désir est anormal... J'aurais tendance à revenir sur ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. C'est vrai que un désir pourrait être considéré alors comme anormal du moment qu'il ne répond plus à quelque chose d'essentiel. Mmh. Et donc essentiel, c'est-à-dire que ça correspond à quelque chose qui vient avant. Du moment qu'un désir, par exemple dans Into the Wild, si on décide de ne plus rechercher forcément le bonheur graduel, à ce moment-là, peut-être qu'on a un désir anormal qui serait de ne plus rechercher le bonheur, et alors que le bonheur est censé nous permettre de vivre, c'est un peu notre nature.
C'est pas mal tout ça, moi je trouve vraiment. Merci à tous, hein. Merci Marc Rosmini. Vos élèves ont bien de la chance qu'il me soit permis de le dire à la radio. Je rappelle que vous enseignez en terminale au lycée Marseille Vert, que la question du jour était de savoir si l'on peut dire d'un désir qu'il est anormal. Et avec vous, monsieur, s'achève la première des deux semaines que les Nouveaux Chemins de la Connaissance consacrent au bac philo. Merci donc à toutes celles qui l'ont rendu possible. Geneviève Méric, Mathilde Unger, Avril Ventura, Jeanne-Marie Roux, Christine Robert et Adèle Vanrette, évidemment, ça c'est l'équipe des Nouveaux Chemins. Merci aux élèves qui ont accepté de participer à ces émissions en nous faisant part de leurs intuitions à titre personnel. J'avoue que moi, jusqu'à cette semaine, je trouvais plutôt démagogique de donner la parole aux élèves. Les adolescents qui se sont succédés au micro, les jeunes adultes qui se sont succédés au micro, m'ont tous donné tort. À cet égard, je les en remercie. Merci enfin à Caroline Cesbon et Émilie Vital, nos deux anges gardiens qui nous ont accompagnés toute la semaine après avoir soigneusement préparé notre venue à Lyon puis à Marseille. Le rire de Caroline et le sourire d'Émilie sont deux raisons supplémentaires de repasser le bac à 5 reprises. Merci à vous pour finir, chers auditeurs, de votre fidélité. Sachez que notre site internet vous est ouvert et vous propose de réentendre et de télécharger toutes les émissions de la semaine, ce que je recommande en particulier à ceux d'entre vous qui passent ou repassent, on ne sait jamais, le bac. Changement de décor la semaine prochaine, on quitte le bac et on vous propose de réentendre la semaine qu'on avait enregistrée sur les correspondances. Apollinaire et Lou, Flaubert et Louise Collet, Anaïs Nin et Henri Miller, vous verrez, vous entendrez, c'est magnifique. Lundi prochain, on commencera la semaine comme il se doit par Héloïse et Abélard. France Culture, 10h59. Dans un instant, question d'époque.